Au quotidien, avec Hélène Denis.
Nous sommes bien le premier jour du mois d'octobre, même si ça paraît pas trop, mais ça paraît quand même ce matin parce que oui, il fait un beau soleil, mais c'est beaucoup plus frais. On se retrouve, chers auditeurs et auditrices, après la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un férié au fédéral et Canalem n'était pas en onde hier. Il y avait des reprises d'émissions et puis aussi, évidemment, qu'on était conscientisés à l'effet que c'était la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ça a paru dans la programmation. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des aînés. Alors, tous les aînés à l'écoute, nous nous inclinons et nous vous saluons. Bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous vous considérez comme un aîné?
Ben oui.
Ouais. Ben vous faites partie de l'âge d'or.
Absolument. Vous oui. Garanti, je suis dedans, là, moi.
Alors, vous, là, vous avez l'air d'un golfeur ce matin avec votre polo oui. Et vos Bermudas. Manque juste le bâton.
Pour le reste, c'est un petit rappel de l'été. Là,
oui,
encore.
Mais imaginez qu'en fin de semaine, on prévoit des 25 ben oui. Jusqu'à 30 degrés.
Ben oui,
oui. Oui, l'été n'a pas encore dit son dernier mot, même si c'est l'automne en principe et pas juste en principe, en pratique. Mathieu, il me semble que vous voulez dire quelque chose depuis tantôt.
Non, je pensais que Serge portait le Bermuda en lien avec le sujet d'Isabelle.
Ah oui, ben c'est quoi le rapport?
Bermuda? Le Bermuda?
Ouais, ouais, OK.
Oh boy, ça pas haut un matin, là.
Au beurre. Alors Isabelle, qui rigole depuis tantôt, dites-nous tout sur votre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que ça a un rapport avec les Bermudas?
Non, pas vraiment. À part peut-être que... Non, j'essaie de trouver un lien, mais non, vraiment pas. Il s'agit d'un extrait d'un livre apparaître qui est publié sur le site slate.fr. Donc, c'est un livre, La guerre du gras. Et c'est vraiment l'histoire du gras depuis, je pense, le début du 16e siècle, en tout cas. Depuis là où on a des archives qui parlent de la consommation de gras. Et donc, effectivement, les guerres, les conflits qui ont été générés, un peu comme pour la route des épices et des choses comme ça. Et, mais là, on parle de gras. Donc, c'est le journaliste Nicolas Kayser-Brill qui nous explique pourquoi le beurre a connu une révolution spectaculaire dans la gastronomie hexagonale, éventuellement.
Alors, la guerre du gras n'a rien à voir avec la guerre que l'on fait pour perdre des livres, du poids.
Non, effectivement.
Non. Merci. Alors, un beau sujet ce matin, le beurre. Et vous, Serge, vous allez nous parler de quoi?
L'incroyable épopée des Sister Ships du Titanic.
Les Sister Ships?
Oui, c'est que le Titanic, ça fait partie d'une série de trois bateaux qui ont été construits par la ligne de Cunard. Et vous aviez le Titanic, l'Olympique et le Britannique.
Elles vont en train de couler, vous, là?
Oui. Olympique, Britannique, Titanic. Et les trois ont connu... Il y en a deux qui ont fait un naufrage, le Titanic et un autre. Et il y en a un qui a survécu, le Britannique.
Et, alors, vous allez tout nous dire là-dessus.
Oui, tout. Et voyons, je vais vous parler de l'insubmersible Violette Jessop.
Ah, c'est un beau titre, ça.
Oui, c'est une madame qui a une employée. Elle a survécu aux deux naufrages, puis elle a terminé sa carrière sur le troisième vaisseau.
Puis elle est morte comment?
Elle est morte de sa belle mort.
Ah!
Ouais.
Bon, bien, merci beaucoup d'être là, vous deux. Puis on salue Daniel Lachance, notre chroniqueur musique, qui viendra un jour ou l'autre. C'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre semaine d'après. Et on part... Ah oui, je voulais présenter les autres sujets. Il y a Christiane Campagna, que vous connaissez sans doute, ancienne collègue, ancienne employée ici à Canalem, et qui est maintenant chargée de communication chez BiblioPresto, un organisme qui appuie les bibliothèques en leur offrant des services numériques. Et Christiane viendra nous dire tout à propos du prêt numérique. Et puis, qu'est-ce qu'on aura pour vous? Également, la chronique de Julien Caillouette, qui nous donnera des nouvelles du Canada francophone. Julie Laferrière, médiatrice culturelle et cofondatrice de l'organisme Ma Parole, viendra nous présenter son organisme et aussi l'événement que l'organisme a réalisé en compagnie, en collaboration avec le FIL, le Festival international de la littérature, qui s'intitule « Au fil de la parole, point de suspension, avec Kim Thuy. Donc, beau menu pour amorcer ce mois d'octobre 2025. Et on y va avec une nouveauté, La vie des autres, Sébastien Lacombe.
Pas trop au paradis, on est quand même pas mal ici. Nos trajectoires sont bien à nous. Qu'est-ce qu'on fout toujours à regarder la vie des autres? Je me surprends à être jaloux. Je vois des millionnaires partout, ces nouveaux dieux instantanés qu'on nous propose toute la journée. Je deviens fou de vouloir tout, tout le temps. Et j'oublie tout, tout ce que j'ai en regardant la vie des autres. Oh, la vie des autres. M'arrive parfois d'espionner les voisins quand les rideaux ne sont pas fermés. Je lis les magazines de stars, parfois je me permets de rêver. On dirait que c'est pas pour moi, ce bling bling et ce fla fla. Ma tête, on est tous égaux. Pas de taudis, pas de château. Je deviens fou de vouloir tout, tout le temps. Et j'oublie tout ce que j'ai en regardant la vie des autres. Oh, la vie des autres, la vie des autres. J'ai parfois une lucidité passagère, quelque chose d'extraordinaire dans le cours des jours ordinaires. Oh, je deviens fou pour vouloir tout, tout le temps. Et j'oublie tout, tout ce que j'ai en regardant la vie des fous, vouloir tout, tout le temps. Et j'oublie tout, tout ce que j'ai en regardant la vie des autres. Oh, la vie des autres, la vie des autres. La vie des autres.
Sébastien Lacombe, La vie des autres.
Merci Mathieu. À la une de la presse, condamné pour quadruple meurtre en 1994, on peut lire une citation de cet homme, Daniel Jolivet. Il était temps, point d'exclamation. Daniel Jolivet qui clame son innocence depuis le premier jour. Revirement majeur, le ministère public reconnaît aujourd'hui qu'il a possiblement été victime d'une erreur judiciaire. Joint par notre chroniqueur Yves Boisvert, l'homme toujours emprisonné dit souhaiter par-dessus tout un nouveau procès. Aussi à la une de la presse plus, Coupe de Québec, les procureurs sonnent l'alarme. L'abolition de dizaines de postes menace le système de justice criminelle, selon leur association. On parle de la rentrée parlementaire, des chroniques à ce sujet. Paul Journet, un gouvernement à l'urgence. Stéphanie Grandmont, à la recherche de la confiance perdue. À la une du Devoir éducation, l'immigration fait-elle déborder nos classes? Au Québec, les écoles débordent et une pénurie de main-d'œuvre limite l'offre de services offerts aux élèves. Dans ce contexte, le gouvernement Legault a maintes fois montré du doigt l'immigration pour justifier une partie des problèmes rencontrés par le réseau de l'éducation, un discours que relativise une série d'experts joints par Le Devoir. C'est un texte de Zacharie Goudreau. Dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec, le nombre d'élèves issus de l'immigration de première et de deuxième génération a connu une hausse notable de 60 % entre les années scolaires 2014-2015 et 2024-2025. Ceux-ci représentaient ainsi l'an dernier 36 % de tous les élèves du réseau scolaire public et privé, contre un peu plus du quart 10 ans plus tôt, selon le tableau de bord du ministère de l'Éducation du Québec. La hausse du nombre d'élèves immigrants sur 25 ans n'a toutefois pas fait bondir le nombre total d'élèves dans le réseau scolaire, montre une compilation de données gouvernementales réalisée par Le Devoir. Aussi à la une du Devoir, le premier ministre François Legault, que l'on voit en photo, entouré de ses ministres lors de la rentrée parlementaire. Une analyse de Marco Belair-Cirino, un gouvernement Legault impopulaire mais pas illégitime. Les opposants politiques de la CAQ continuent de décrier le parti au pouvoir dont le gouvernement majoritaire entame la dernière année de son mandat. Et puis à la une du Journal de Montréal, enfin, une accusation. Le meurtre de Valérie Leblanc avait secoué le Québec il y a 14 ans. Texte de Valérie Gontier et Marianne Lafleur. La famille de Valérie Leblanc peut souffler un peu 14 ans après le meurtre de la jeune étudiante de 18 ans. La police de Gatineau a annoncé qu'un suspect a enfin été arrêté. Il s'agit de Stéphane Rivard de Gatineau qui fera face à une accusation de meurtre prémédité. L'homme de 51 ans était connu du service de police selon les autorités, mais ne possède aucun antécédent criminel. Et puis, on apprend aussi une sorte de renaissance d'un journal que vous connaissez sans doute, le journal Métro et Métro-Québec, qui renaissent de leurs cendres 2 ans après être disparus du paysage médiatique québécois pour cause de faillite. Le journal montréalais gratuit Métro et sa filiale dans la capitale Métro-Québec annoncent leur retour. Les détails de cette reprise officielle des activités qui compte sur un nouveau modèle de production, de l'information qui mise sur l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et la rigueur de nos journalistes seront dévoilés lors d'une conférence de presse aujourd'hui même en présence du rédacteur en chef Olivier Robichaud et du président et directeur général Pierre-Antoine Fradet.
Thank you.
bon entendeur qui revisite la chanson « Le temps est bon » d'Isabelle Pierre.
Et on l'entendait également, Isabelle Pierre, dans cette magnifique chanson. Alors, « Le temps est bon » et « Le beurre est bon » aussi, Isabelle.
Oui, le beurre est toujours très bon. Mais je vais vous en parler d'un point de vue historique. C'est donc, comme je vous disais, un extrait du livre « La guerre du gras » qui est paru sur le site slate.fr. Je suis allée voir le livre et il devrait sortir ici au Québec le 20 octobre de cette année. Donc, disponible en précommande sur le site Les Libraires, mais on n'a pas plus d'informations là, quand est-ce qu'il va être disponible en version audio ou quoi que ce soit. C'est un livre qui n'est pas encore paru, mais c'est quand même vraiment intéressant. Cet article-là, ça nous donne le goût, en tout cas. L'introduction de l'article, beurre, crème, saindoux, huile d'olive, margarine, nos graisses culinaires, si banales en apparence, portent en réalité une histoire millénaire et largement conflictuelle. Car le gras, c'est la vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette petite citation-là.
Non.
Les fans de Kaamelott, la série télé et maintenant les films, là, c'est Caradoc qui dit ça, le gras, c'est la vie.
OK.
Donc, mais c'est politique aussi. Contrôler la production et le commerce en matière grasse a d'ailleurs toujours été une affaire d'État et la guerre du gras n'est pas une métaphore, selon ce que raconte le journaliste Nicolas Kayser-Brill dans son livre La guerre du gras. Donc, il est paru le 12 septembre en France, là, mais c'est ici là, qu'il n'est pas encore paru. Et il est paru aux éditions Nourriture Fue. Ça s'écrit Nourriturfu. Donc, je ne sais pas si c'est pour Nourriture du futur. Mais je suis allée voir quelques autres titres qui sont parus de cet éditeur-là. C'est vraiment intéressant. Steakisme, en finir avec le mythe de la végé et du viandard. Matriarcat, quand les femmes ont soif de bière et d'égalité. Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette. Surveiller et nourrir, comprendre ce que la prison a dans le ventre. Donc, c'est vraiment des sujets alimentaires, mais avec une twist, comme on dit.
Absolument, des titres accrocheurs, en tout cas.
Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est très intéressant. Donc, on commence par nous dire qu'entre 1500 et 1800, l'Europe connaît de profondes transformations. Et là, je vais vous lire vraiment des extraits intégraux parce que le style de l'auteur est vraiment très intéressant. Vous allez voir. Religieuse d'abord, quand en 1517, un moine allemand colle un poster sur la porte de son église, ce qui n'a pas l'air de plaire à sa hiérarchie. Et là, on parle de cette façon humoristique de, évidemment, Martin Luther, qui en 1517 a publié il a probablement plus mis avec des clous sur la porte, mais en tout cas, il a publié ses 95 objections là, sur la religion catholique. Et donc, ce qui a ouvert le protestantisme. Transformation économique et morale ensuite, quand en 1685, le gouvernement décrète que certaines personnes ne sont finalement que des biens meubles, ce qui fluidifie le marché du travail au point de faire la fortune de certaines familles du royaume. Et là, on parle de, en 1685, c'est le fameux édit du Code noir, en tout cas, qui réglementait les esclaves, disait que les esclaves devaient absolument se convertir au catholicisme, l'expulsion des juifs des colonies françaises, enfin... Je suis allée chercher tout ça, je savais pas du tout. Mais on fait juste mentionner cette phrase-là comme si ça allait tout nous dire. Ensuite, transformation politique, enfin, quand en 1789, un groupe d'émeutiers saccage un centre de rétention administrative dans l'Est parisien. Et là, évidemment, on parle de la Révolution française et la prise de la Bastille. Donc, c'est très métaphorique comme écriture. L'auteur prend pour acquis qu'on est...
intelligent et cultivé.
Voilà, exactement. Et c'est très intéressant de ne pas avoir un auteur qui est condescendant envers nous, mais ça va vous obliger, si vous lisez le livre, sûrement à faire beaucoup de recherches, comme j'ai déjà fait, pour seulement un extrait.
Une lecture stimulante, quoi.
Exactement. Mais, et là, c'est là qu'on arrive à la gastronomie, le grand bouleversement gastronomique de l'époque, et il a tout à voir avec les trois transformations que je viens de citer, c'est la revanche du beurre. Dans les cuisines françaises, le beurre passe de graisse de barbare et de pauvre à celui de délicatesse aristocratique suprême, un statut qu'il conserve encore largement aujourd'hui. Alors, au début de la Renaissance, le beurre de vache est encore méprisé, comme au temps de l'Empire romain. Ici, on dit qu'en 1527, à Meaux, près de Paris, les pensionnaires de l'Hôtel-Dieu, des pauvres donc, reçoivent du beurre plusieurs fois par semaine. Encore en 1606, le trésor de la langue françoise, le premier dictionnaire moderne, explique à la lettre B qu'un burrier, puisque ça s'écrivait B-U-R-R-I-E-R, est celui qui vend du beurre comme celui qui en mange beaucoup. Alors, le burrier, c'était pas le contenant dans lequel on met notre beurre, mais plutôt celui qui en vend ou qui en mange. Surtout, il est écrit qu'en France, l'usage du beurre est commun et plus pauvre, plus du pauvre que du riche.
Le beurre, c'est de la bonne langue françoise de l'époque.
Voilà, exactement. Et à cette époque, effectivement, les riches ne mangent pas de beurre. Mais d'ailleurs, et ça, c'est ça qui m'a encore plus surpris, les Grecs, en général, ne les intéressent pas outre mesure. L'historien Jean-Louis Flandrin a dépouillé les livres de cuisine du début de la Renaissance. Et selon lui, on ne cuisine pas très gras, même chez les aristocrates. Évidemment, il y a le cochon rôti, qui est toujours au centre du repas, et il est certainement bien gras, mais les sauces ne contiennent ni huile ni beurre. Elles sont faites au verjus, un jus de raisin acide, ou encore au vinaigre ou au jus de groseille à maquereau. Et même les poissons, qui sont pourtant considérés maigres, sont servis avec des sauces acides et fortement épicées. Et dans Le Viandier, un livre de cuisine largement lu au 15e siècle, mais largement lu, évidemment, on parle de juste des aristocrates, parce que les pauvres ne lisaient pas des livres de recettes à cette époque. On sert donc la truite et l'alose, qui est un autre poisson, avec une sauce caméline, c'est-à-dire au gingembre, cannelle et grand foison, girofle, graines de paradis, mastic, poivre long qui veut. C'est la citation de la truite de recette. Et c'est lié au pain trempé dans du vinaigre. Alors, on est alors plus près de la cuisine du sud-est asiatique que de la cuisine française contemporaine.
Ah oui, une cuisine santé, hein? Pas de cholestérol, j'imagine, pour les riches à l'époque.
C'est ça. Une autre innovation moderne permet la cuisine au beurre, le potager. Et là, on ne parle pas du potager où on cuisine des légumes, mais on parle d'un four, donc une construction en briques ou en pierre qu'on installe dans les cuisines aristocratiques. C'est une espèce de fourneau, un feu ou des braises couvent en bas, et plusieurs ouvertures en haut permettent de placer les marmites et les poêles sur le plan de travail. C'est pas encore précis comme une plaque en induction, évidemment, mais c'est un progrès notable par rapport à tout simplement cuire sur un feu ouvert dans une cheminée. Donc, c'est un peu l'ancêtre du four. Le poêle de fonte, là, où on avait le four à l'intérieur, puis sur le dessus, on avait, je sais pas si vous aviez ça, des poêles en fonte. Moi, ma mère en avait un dans sa maison.
Une poêle en fonte, mais pas un poêle en fonte. Oui, je sais de quoi vous parlez.
C'est le poêle au complet est en fonte, ouais, et le dessus, on fait cuire des aliments, mais évidemment, on peut pas décider, on peut pas dire au four ou à l'élément, allume-toi à 80 degrés ou.
Non.
c'est selon la nature du feu en dessous. Et donc, c'est ça, c'est parce que le beurre a un point de fumée qui est assez bas, à 150 degrés, et là, ça doit être des degrés Celsius, puisque c'est un article français. En comparaison, la graisse de rognon de bœuf brûle à plus de 200 degrés. Donc, évidemment, si on ne maîtrise pas son feu, ben on peut pas faire cuire au beurre parce qu'on va en fumer toute la maison au complet. Et c'est pour ça que les potagers et éventuellement les fourneaux en fonte ont permis aux cuisiniers de mieux régler la température.
Je pense qu'il va falloir faire une chronique en 2-3 parties, là, parce qu'il vous reste pas beaucoup de temps, Isabelle.
Ben moi, je vais plutôt vous diriger à aller lire l'article au complet, dont le titre est « De la pauvreté à la noblesse, l'ascension du beurre dans la cuisine française ». Mais je vais probablement non seulement aller consulter ce livre-là quand il sera paru ici, mais il y a beaucoup d'autres titres dans la même collection que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais c'est ça, il y a aussi des considérations religieuses. Il y avait une interdiction de consommer le beurre. Mais en fait, je pense que un des plus gros changements, c'est que le transport a été beaucoup plus facilité. Parce que, évidemment, pour avoir du beurre, il faut avoir du lait. Donc, il faut avoir des vaches. Et les vaches sont pas élevées en ville. En tout cas, pas en très grand nombre, assez pour nourrir toute la ville en beurre. Donc, le fait qu'on puisse transporter le beurre de façon plus facile, ça a permis à démocratiser un peu là, son utilisation. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont qui entre en ligne de compte. Non, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup. C'est très, très intéressant. Il y a un extrait, là, extrait ici.
Ah, oui. 30 secondes, parce que là, Serge, il n'y aura plus de temps.
Bon, ben, c'est qu'on a commencé à faire des beurres composés comme le beurre maître d'hôtel pour accompagner le steak ou le beurre de caviar, qui est un volume de caviar pressé pour 3 volumes de beurre pour couvrir le fond des petits fours au caviar. Je ne sais pas que ça existait, mais le beurre de caviar, voilà.
Le beurre de caviar, alors j'imagine que c'est encore meilleur que le beurre à l'ail, mais pour ceux et celles qui aiment le beurre à l'ail.
Voilà.
C'est chic et c'est plus cher encore, mais quand on est riche, on peut tout se permettre. À l'ascension du beurre dans la cuisine française, de la pauvreté à la noblesse. Merci Isabelle pour ce partage de texte et de nous avoir donné envie de manger du beurre, si ce n'était déjà fait.
Bon beurre.
La modération vient meilleur goût, hein? C'est bon pour l'alcool, voilà, mais c'est bon aussi pour le beurre, ce principe-là. Merci. Évidemment, Serge, vous allez avoir plus de temps au retour, là, mais mettez-nous la table de votre sujet.
Ah, c'est un article que j'ai trouvé dans la « Ça m'intéresse histoire » de juin dernier. Et c'est un article de Christophe Vérin-Forer, « L'incroyable épopée des Sister Ships du Titanic ». On connaît tous le destin du mythique navire naufragé en avril de 1912, le Titanic, mais on connaît beaucoup moins les mésaventures qui sont arrivées à l'Olympique aux Britanniques, ses jumeaux. Alors, je vais vous parler de ça, vous décrire ça. Surtout, vraiment, l'insubmersible Violette Jessop,
oui.
Ça, j'ai hâte. Parce que dans le film qui a été fait, il y a l'insubmersible Molly Brown, qui était une riche Américaine, qui est sur le bateau, puis qui a vraiment, parce qu'elle a passé à différentes épreuves, puis elle rebondissait toujours.
Oui, il y a des gens chanceux.
Oui.
À suivre, merci. Merci, Serge.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et c'est Serge qui est là. Isabelle, vous êtes toujours là?
Oui.
Oui, pour parler de paquebots qui sont jumeaux du Titanic, mais beaucoup moins connus.
Oui. Alors, leurs bateaux de cette compagnie maritime sont entrés dans l'histoire, mais pas forcément comme ils l'avaient imaginé.
Rappelez-nous les noms des bateaux.
Oui, vous avez l'Olympique, le Britannique et le Titanic. En 1907, la compagnie maritime White Star Line et le chantier naval Harlan & Wolff s'associent pour contrer leur principal concurrent, la Cunard Line. Ils vont ainsi construire 3 sister ships, ou navires jumeaux, le Titanic, l'Olympique et le Britannique. Le Britannique, son nom initial, c'était le Gigantique. Alors, ces navires-là étaient aux proportions et au luxe inédits. Ce sera la fameuse série des Olympiques, du nom du premier de ces 3 premiers paquebots hors normes. Le Titanic, évidemment, c'est le plus célèbre. Sa croisière inaugurale débute le 10 avril 1912 au départ de Southampton en Angleterre. Et on connaît tous la suite. 4 jours plus tard, il heurte à pleine vitesse un iceberg au large de Terre-Neuve et coule en 3 heures à peine. Le bilan, effroyable. On compte près de 1500 victimes, la plupart mortes noyées dans une eau glaciale. Les causes de ce drame? Les cloisons étanches compartimentant la cale n'étaient pas bien conçues. Et les canaux de sauvetage, 3 fois moins nombreux que ce qu'il aurait fallu. La destinée du Britannique sera tout aussi tragique. Le paquebot britannique ne connaît pas d'exploitation commerciale, car il est réquisitionné dès 1915 par la Royal Navy et transformé en navire hôpital, à cause de la Première Guerre mondiale qui avait commencé en 1914. Et il compte 3300 lits avec des salles d'opération, donc c'est assez moderne. Le 21 novembre 1916, il subit une explosion, probablement on pense due à une mine, et à proximité de l'île grecque Kea. Une brèche s'ouvre sur son flanc droit, 2 compartiments et la salle des machines sont inondés, l'eau s'engouffre également par les hublots restés ouverts, et le bonheur des opérations permet de limiter les pertes. 30 morts et 45 blessés sur les 1125 passagers. C'était membres d'équipage, personnel médical et patients. Le navire disparaît rapidement à la surface de l'eau à 9h07, soit moins d'une heure après l'explosion.
De la surface?
De la surface, ouais. Soit moins d'une heure après l'explosion, alors que le Titanic avait pris presque 3 heures pour couler. L'Olympique est le seul des 3 bateaux à avoir connu une véritable carrière.
Portait bien son nom.
Oui. Il entame sa traversée inaugurale le 14 juin 1911 et il lui faudra seulement 5 jours, 16 heures, 42 minutes pour atteindre New York depuis Southampton.
Oui. Olympique.
Oui. Le jour du naufrage du Titanic, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il se trouve au milieu de l'Atlantique, à 900 kilomètres, des lieux du drame. Et trop loin pour participer au sauvetage, il prend tout de même sa direction, en vain malheureusement, et grâce à ses installations radio très puissantes, communique avec son jumeau et le navire les plus proches. Comme le Britannique, l'Olympique va ensuite être réquisitionné lors de la Première Guerre mondiale. L'armée anglaise l'utilise en 1915 pour le transport de troupes en Méditerranée, puis entre le Canada et le continent européen pour amener les troupes en vue de la bataille finale. Il réalise un exploit étonnant en mai 1918. Il éperonne et coule un sous-marin allemand, le U-103, et il est à ce jour le seul navire civil à avoir coulé un navire de guerre ennemi.
Alors, l'Olympique est le seul des 3 qui n'a pas coulé.
Non, exactement. Après la guerre, il fait l'objet d'une importante refonte. Il le reprend à la mer en juin 1920 comme paquebot de croisière. L'Olympique va vivre son âge d'or en transportant les célébrités qui traversent l'Atlantique. Excusez-moi. De Gaulle, le futur Édouard VIII. Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Mary Pickford.
Oh!
Mais dans les années 1930, le transport maritime décline et les deux concurrents, White Star et Cunard, fusionnent. Le bateau est mis à la retraite en 1935 et démantelé en 1937. Excusez-moi. Avec ses années de bons et loyaux services, il hérite du surnom d'Old Reliable, le vieux fiable, et sauve l'honneur de la série olympique. Maintenant, peut-être juste une petite affaire d'un petit pont, parce que je vais prendre un peu d'eau, puis oui. Pour pas vous tout stopper.
Parlez donc de cette Violette,
oui,
l'insubmersible.
Oui, oui. Une dame que si elle vous invitait à aller faire un tour de bateau, je pense que vous y penseriez à 2 fois.
Mais je sais pas, elle coule pas.
Oui, mais tu sais, c'est pas garanti que tu vas être à côté d'elle quand tu vas pouvoir te sauver.
Racontez-nous son histoire.
Alors, cette Britannique a travaillé sur les 3 paquebots et a survécu aux 2 naufrages.
Wow.
Oui, engagée à 24 ans comme hôtesse sur l'Olympique, elle est transférée sur le Titanic pour son voyage inaugural. Ah, évidemment, elle était toute contente. Et le Titanic. Dans la nuit du 14...
Elle a dit ça de même 3 fois?
Ben, à peu près. je brode un peu. Dans la nuit du 14 avril 1912, alors que le navire est en train de couler, elle réveille les passagers et les fait monter sur le pont. Elle-même réussit à embarquer sur le canot numéro 16. Et de retour, évidemment, elle est retournée sur l'Olympique après pour continuer à travailler.
Et donc, elle s'en est bien tirée.
Elle s'en est bien tirée.
Le canot numéro 16
oui.
N'a pas coulé.
Oui, oui. Alors, quand elle est de retour sur l'Olympique, elle assiste en octobre 1914 au sauvetage d'un cuirassé, l'Odysseus, et participe à l'accueil de ses marins naufragés. En 1916, elle est infirmière sur le Britannique. Évidemment, le Britannique est attaqué par une torpille. Alors, le jour de l'explosion, Violette récupère sa brosse à dents qui lui avait beaucoup manqué lors du naufrage du Titanic.
Sauvée par une brosse à dents.
Tu t'imagines, c'est la fille, ma brosse à dents.
Mon bikini, ma brosse à dents.
Oui. Elle monte dans un canot qui est happé par les hélices affleurant à la surface de la mer, quand même. La jeune femme saute à l'eau, attend et est repêchée vivante. Et Violette Jessop continuera à naviguer sur différents paquebots jusqu'à sa retraite en 1950. Elle est décédée en 1971 à 83 ans.
Ah, 83 ans, c'est pas vieux quand même, mais elle s'en est bien tirée.
Oui.
Dans un contexte de tragédie.
Oui. Il reste...
Oui. Allez. Bon, vous avez d'autres choses à dire à propos de ces paquebots-là?
Non. J'ai un autre... Le pain qui rend fou, qui n'est pas très long comme article. Il reste quoi? 3-4 minutes?
Oui.
Ah bon, parfait. Alors, en août 1951, les trois médecins de Pont-Saint-Esprit en France sont débordés par une curieuse intoxication qui terrasse les habitants. Les patients sont pris de coliques, céphalées, vomissements et, plus inhabituel, d'hallucinations. Les soupçons se portent sur le pain car ces symptômes évoquent la contamination par l'ergot du seigle, cause du mal des ardents qui sévissaient au Moyen-Âge.
Comment on appelle ça? L'argot ou l'ergot?
L'ergot du seigle.
L'ergot du seigle.
La farine est contaminée par un champignon parasite contenant des alcaloïdes toxiques et de l'acide lysergique, principal composant du futur LSD.
Oh!
Ah, oui.
Lucy in the Sky with Diamond.
Oui, inventé par Albert Hoffman en 1938. Le 20 août 1951, le maire fait fermer les boulangeries. Malgré cette précaution, ses 4200 administrés se souviendront du 25 au 26 août comme de la nuit de l'apocalypse. Un homme se défenestre et court avec les deux jambes fracturées. Le facteur croit avoir des serpents dans le ventre. Une fillette voit un flot de sang dans sa chambre. Une femme se distraquait par des démons.
Ils avaient tous pris cette drogue hallucinogène.
Mais sans le vouloir.
Oui. C'est comme les brownies aux potes, là, quand tu sais pas qu'il y a du pot dedans. Mais là, c'était plus grave.
Oui. Et cette folie touche aussi les animaux. Des chats convulsent et des chiens attaquent des arbres. Ce qui a mis la puce à quelqu'un à un moment donné.
La puce à l'oreille, oui.
L'étrange mâle fait 7 morts, 50 personnes internées d'urgence en psychiatrie et 250 malades sur une population de 4200 administrés. C'est quand même beaucoup.
Oui.
Que s'est-il passé? On fait analyser la farine de piètre qualité en cette période d'après-guerre. Pas de traces de contamination. Aucune autre piste, intoxication avec un agent de blanchiment ou par des pesticides, n'est probante. Mais, en 2009, quand même une cinquantaine d'années plus tard, coup de théâtre, le journaliste américain Hank Albarelli publie « Une terrible erreur ». Un livre dans lequel il raconte que Frank Olson, chimiste de la CIA dans les années 1950, aurait dit avoir participé à des tests de LSD sur les gens de Pont-Saint-Esprit.
Non.
Sous forme de pulvérisation aérienne et par contamination de produits alimentaires locaux. Ce qui expliquerait que les animaux ont aussi été réagis.
Oui.
L'incident de Pont-Saint-Esprit serait même mentionné entre l'Agence américaine de renseignement et un scientifique du laboratoire suisse Sandoz, où a travaillé Albert Hoffman, le découvreur du LSD. Mais pourquoi diable la CIA aurait-elle débarqué à Pont-Saint-Esprit? Avis aux amateurs de mystère. Moi, j'avais vu dans un documentaire qu'on faisait des tests pour voir comment les militaires pourrait réagir à ça ou comment si on... donc, le danger pour les militaires d'utiliser ça ou comment on pourrait pulvériser ça parce qu'ils ont fait, ils l'auraient pulvérisé. Alors, tu pulvérises ça sur des champs de l'ennemi et tes rangs inopérants, tu sais, ils tombent, inopérants.
Alors, on a découvert le poteau rose des années plus tard.
Évidemment, ça n'a jamais été... confirmé par la CIA, le gouvernement américain. Mais c'est juste peut-être qu'à un moment donné, ils vont sortir un document, quelque chose. Ils vont dire, ah, regardez, c'est marqué ici. Là.
Merci, Serge. Épin. Je pensais que vous faisiez un jeu de mots. Isabelle, merci également.
Merci, au revoir.
Bye.
Si la nuit m'écoute, si le passé me parle d'autre vie, quelque chose me pousse à te chercher dans les rues de la ville. La nuit m'adore. Je t'aime.
C'était la chanson La Nuit de la chanteuse Pomme.
Oui, Pomme qui fait partie de la distribution du très beau film de Cédric Clapiche. D'ailleurs, elle chante cette chanson dans le film La Venue de l'Avenir, un film à voir. Julie Laferrière est au bout du fil. Julie, médiatrice culturelle et cofondatrice de l'organisme Ma Parole. Bonjour Julie.
Bonjour Hélène.
Julie, vous êtes avec nous pour nous présenter cet organisme Ma Parole avec un point d'exclamation et aussi oui. L'événement intitulé Au fil de la parole avec Kim Thuy. Merci d'être là au bout du fil, évidemment, pour ce qui vous concerne. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Ma Parole, point d'exclamation?
Avec plaisir, point d'exclamation. Alors, premièrement, merci beaucoup de nous recevoir ce matin. Nous et mes collègues, effectivement, on a cofondé Ma Parole en août 2023. Donc, c'est un organisme qui est tout jeune. Ça a été cofondé par Lanan Vuong, Antoine Dion-Ortega et moi-même. Donc, si l'organisme est jeune, nous, on a quand même pas mal de millages. On a fait pas mal de millages en termes de médiation culturelle. Vous en parlerez un petit peu plus dans quelques secondes. Mais la mission de Ma Parole, c'est d'utiliser les arts et la culture pour aller à la rencontre d'adultes qui sont issus de l'immigration et qui sont en apprentissage du français ou qui souhaitent pratiquer cette langue qu'ils ont acquise récemment. Donc, c'est comme ça qu'on déploie des ateliers avec, on a une soixantaine d'artistes qui travaillent avec nous, on a plusieurs ateliers, plusieurs initiatives. Alors, c'est notre posture de vraiment croire fermement que les arts et la culture, c'est un point d'ancrage et de rencontre extrêmement concluant pour accueillir en société d'accueil les nouveaux concitoyens, les nouveaux Québécois.
Mm-hmm. Et comment est arrivée l'association avec ou la collaboration avec le Festival international de la littérature?
Ah, ben il y avait un lien assez organique, je vous dirais. Oui, 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 parce que ben en fait, moi, j'ai eu la chance pendant très longtemps de faire de la radio, notamment aux côtés de Michel Desautels à Radio-Canada, où je faisais la chronique culturelle. Alors, mon beat, si vous me permettez l'anglicisme, oui. C'était donc de couvrir la littérature, le cinéma, le théâtre, la musique. Alors, je suis une habituée du fil depuis des années. C'est un festival que j'adore. Et évidemment, la littérature étant au cœur de ce festival-là, je me disais, les apprenants adultes qui sont... alors, il faut savoir dans les apprentissages du français qu'il y a débutants, intermédiaires, intermédiaires avancés. Quand on est rendu à intermédiaire avancé, on est presque au bout de nos apprentissages. Et puis, on a peu d'occasions de pratiquer l'écriture, la production orale, ce qu'on appelle des échanges, des discussions. Alors, je me suis dit, ça serait formidable d'aller voir la gang du fil et de leur proposer des ateliers de médiation culturelle avec des mises en lecture, spectacles comme eux le font si bien, et de proposer aux apprenants de commettre des textes qui seraient lus par des artistes au moment de la conclusion du festival. Donc, c'est un cabaret qui se tient dans une très jolie librairie qui s'appelle La Livrerie. Et ceux et celles qui ont commis des textes ont la chance de les entendre lus par une comédienne Inès Talbi ici et Christian Ranrel qui donne voix à ces textes-là. Et c'est mis en musique par Laurie Torres. Alors, c'est un événement qui, on le fait pour une deuxième édition cette année. C'est assez formidable. Je donnerai l'adresse, si vous voulez, à la fin de notre conversation, là, parce que c'est admission libre, on peut se présenter, pas besoin de réserver. Et c'est très intéressant, Hélène, de voir des univers tantôt ukrainiens, bulgares, colombiens, indiens, chinois, avec des expressions en français, commettre des poésies, de la prose. C'est très intéressant de voir la rencontre entre la nouvelle langue qu'ils ont acquise et leur univers.
Et c'est une deuxième édition. Alors, vous avez déjà un petit peu d'expérience. L'an dernier, vous vous êtes intéressée à l'œuvre de Caroline Dawson parce qu'il y a toujours un auteur ou une autrice qui est choisie. Cette année, c'est encore une autrice. Là, il s'agit de Kim Thuy.
Oui, oui. Alors, dans le cas de l'année dernière, effectivement, c'est Inès Talbi qui crée un collage, si vous voulez, d'extraits. Donc, elle s'est inspirée du livre « Là où je me taire ». Donc, ça donne, pour vous donner une idée de comment ça se déploie, il y a une mise en lecture qui dure à peu près 25 minutes, 30 minutes, et puis ensuite, on fait un échange. Donc, alors évidemment, on peut pas lire le livre au complet ou le roman au complet. Donc, c'est un collage qui est toujours, Inès, elle est très douée pour créer quelque chose de fluide et qu'on puisse justement suivre le fil pour pas faire du récit. Et puis ensuite, on échange avec la cohorte devant laquelle on se déploie. On va dans 4 centres de francisation, et cette année, rebelote, on retourne dans 4 centres de francisation, et cette fois, Inès s'est penchée sur rue de Kim Thuy.
D'accord. 4 centres de francisation qui sont tous situés à Montréal?
Oui, oui. Là, pour les raisons du Festival de littérature qui se tient à Montréal et puis pour pouvoir déployer le cabaret, mais c'est un bon point que vous soulignez. Mais oui, cette fois, c'est à Montréal. Mais nous, avec l'organisme Ma Parole, on a vraiment l'ambition de se déployer en région aussi. Oui. Mais au fil de la parole, oui, c'est à Montréal.
Et Julie, est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de la représentation à la création des textes ou de la création des textes à la représentation?
Oui. Alors, donc nous, je vais rétro-pédaler un petit peu dans la genèse de comment Au fil de ma parole s'orchestre. Nous, avec Ma Parole, depuis notre création en 2023, mais avant ça aussi, sous l'initiative de Catherine Perrin, qui est animatrice, oui, autrice, musicienne. Catherine, elle a eu, il y a 5 ans, l'idée de se dire, on va amener l'art et la culture dans les classes de francisation d'adultes parce que le public est captif. On amène des artistes, on crée des échanges parce que, quand je dis des adultes, j'insiste là-dessus parce que les adolescents, les enfants au primaire ou les ados au secondaire, ils ont beaucoup d'activités parascolaires. Ils vont au théâtre, ils ont des chorales, ils ont plusieurs occasions de côtoyer la culture. Les adultes qui apprennent le français, ils courent après leur temps. Le cours fini, ils courent chercher les enfants à la garderie. Souvent, ils travaillent le soir. Donc, ils n'ont pas l'espace ni mental ni physique pour aller au théâtre, pour aller au cinéma et tout ça. Alors, c'est pour ça que nous, on amène ça devant eux. Alors, on y va toujours en deux temps. Pardonnez-moi. Donc, la semaine 1, une animatrice, dans ce cas-ci, c'est Catherine et moi, on va rencontrer les 4 cohortes. Donc, on se partage la tâche. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'UQAM, le Centre William Ingston, Pauline Julien et le Cégep Saint-Laurent. Donc, on y va une première heure et on se présente à la cohorte et on explique ce qui va se passer. On parle de littérature avec eux, on échange. Parce qu'évidemment, le but visé, c'est que c'est très intéressant de les inviter à s'intéresser à notre culture, mais il faut s'intéresser aux leurs aussi, à leur culture aussi. Donc, on échange, on leur demande c'est qui les auteurs très connus dans leur pays, de nous parler de poésie perse, par exemple. Alors, on a des échanges pendant une heure avec eux et on leur annonce ce qu'on va faire la semaine d'après. Et là, dans ce cas-ci, au fil de la parole, on leur annonce qu'on va revenir avec Inès, Christian et Laurie qui vont performer des textes de Kim Thuy. On leur parle de Kim Thuy. Donc, voilà pour la première séance. Et la deuxième, on y va. La mise en lecture a lieu donc pendant 25-30 minutes. Et puis ensuite, on échange sur comment la cohorte a reçu ce qu'ils viennent d'entendre. Et ça donne lieu vraiment, pour vous donner un exemple, on a fait une première occurrence avec les artistes lundi. Et Christian, le comédien, a dit « J'aimerais en un mot que vous nous disiez ce que vous avez reçu ». Et c'était très, très beau. Donc, ils sont une trentaine dans la cohorte et les mots qui revenaient, c'était, après avoir entendu des extraits de rue, c'était courage, nostalgie, espoir, peine, force. Alors, ça crée vraiment des rencontres très, très puissantes et éloquentes sur comment peuvent se sentir les nouveaux Québécois.
Très riche. J'espère que Kim Thuy va être à la librairie.
Je savais que vous allez me demander ça. Alors je sais que c'est dans son intention. Ouais. Est-ce qu'elle a confirmé ou infirmé? Non, mais si elle y est, ça sera une belle surprise.
Oui, certainement. Ça va donc se dérouler à la librairie, vous le disiez tantôt. Sur la rue Ontario, vous avez l'adresse exacte, Julie?
Oui, absolument. C'est le 1289 Ontario Est.
Et ça se passe quand?
De 5 à 7, ce vendredi 3 octobre. Et donc, nous en sommes à colliger des textes parce que, comme je le disais au début de notre conversation, les apprenants nous envoient des textes sur base volontaire. Alors, ils ne sont pas obligés de le faire, mais là, j'ai déjà commencé à recevoir, entre autres, un poème d'un monsieur bulgare qui est sublime. Alors, j'ai bon espoir qu'on va avoir une belle petite collection de perles encore cette année.
J'en suis convaincue. En tout cas, c'est extrêmement inspirant de vous entendre. Qui choisit les centres de francisation? Comment se fait la recherche?
Alors, nous, avec Ma Parole, comme on a parmi nos activités les multiples, on est en lien avec une douzaine de centres de francisation sur l'île de Montréal. Et puis là, on commence à développer, à avoir des antennes en région aussi. Donc, au total, on est à 15-16 centre de francisation, mais on s'est bâti une base de données à travers le temps. Donc, c'est nous qui les avons recrutés et qui pouvons les partager dans le cadre de cet atelier.
Alors, vous avez la chance de rencontrer des participants, des participantes qui viennent d'un peu partout à travers le monde. J'imagine que c'est extrêmement riche pour vous, tous ceux et celles qui participent, là.
Absolument, absolument. C'est un bon point que vous soulevez parce que au début, quand on faisait appel à des artistes, c'était frappant comme à chaque fin d'atelier, les artistes disaient « Mon Dieu, c'est extraordinaire ». Et c'est entre autres pour ça qu'on est des artistes, pour créer ces rencontres-là. Alors oui, ça a beaucoup de sens. C'est porteur de sens pour tout le monde, pour tous les partis, autant les apprenants qui nous reçoivent que nous qui recevons beaucoup d'eux. Puis moi, je suis très, très contente de pouvoir accueillir à mon tour parce que j'ai travaillé pendant 4 ans à l'étranger sur des séries documentaires et j'étais, Hélène, à chaque fois reçue à bras ouverts partout où j'allais. Puis je crois que comme société d'accueil, c'est important de se rappeler ça, qu'on a un rôle, bien sûr, d'un point de vue macro, mais dans le micro à tous les jours, de faire un sourire à quelqu'un qu'on croise, puis de reconnaître que cette personne-là a probablement un parcours qui a été intense ou éprouvant, ben je crois que c'est un devoir de citoyen qu'on a aussi.
Bien d'accord avec vous, Julie Laferrière, de l'organisme Ma Parole. À quoi on peut s'attendre pour la suite des choses?
Pour l'organisme, on a un documentaire qui est en post-production, qui va s'appeler 4 saisons dans la vie d'eux. On a été à la rencontre de 4 personnes, 4 citoyens nouveaux québécois, nouveaux pour certains, pas si nouveaux que ça. On a un Johan qui vient de la Roumanie, qui est ici depuis 30 ans. On a une jeune femme, Osana, qui habite à Sainte-Adèle. Alors, on a voulu aussi aller en région, c'est pas juste à Montréal, qui est d'origine mexicaine, qui, elle, est ici depuis qu'elle a 18 ans, elle en a 35. Je vais pas la vieillir. Donc, ça fait un petit moment aussi. Il y a Tancredia, qui est originaire du Congo, qui, elle, est à Montréal. Elle est ici depuis 4 ans. Et Ali, qui est à Sherbrooke, qui est d'origine afghane, qui, lui, est ici aussi depuis 4 ans. Donc, on les suit à travers une année et on voit comment se passe leur vie. Et eux, ils ont acquis la langue française déjà. Donc, voilà, comment traversent-ils les saisons au cours d'une année? Alors ça va être terminé en janvier.
Ça nous fera plaisir de vous réinviter pour nous en parler.
Avec plaisir, avec plaisir. Puis oui, on a plein d'autres projets aussi, des parcours culturels au quartier des spectacles où on entre dans des institutions comme par exemple l'ONF. On présente aux Nouveaux Québécois ce que c'est que cette institution-là, qui ont accès à 7000 films gratuits. On entre aussi à l'Opéra de Montréal où ils font des médiations culturelles merveilleuses. Alors vraiment, c'est l'idée de mettre en contact ces nouveaux concitoyens avec la culture et surtout les persuader que c'est disponible et accessible pour eux, que
c'est important.
Les concerne.
Oui.
Oui, absolument.
Alors, longue vie à l'organisme, ma parole, point d'exclamation, puis bon 5 à 7, point d'exclamation. Je vais dans vos talents humoristiques. La librairie, donc, est une librairie qui est située au 1289 rue Ontario-Est et l'événement au fil de la parole avec Intui et vendredi de 5 à 7. Merci, Julie.
Merci, Hélène.
Quotidien avec Hélène Denis.
On a toute notre façon de faire, mais on finit tout avec les ongles bien noirs. Sors la fourche, puis pogne la pioche. C'est le temps de la récolte. Ça pourrait geler n'importe quand. J'enfile mes bottes pis je mets mes gants. Je pogne un panier pis la barouette. On s'en va jouer dans la bouette. J'ai cueilli les tomates, j'ai déterré les patates. Une citrouille sur la galerie, des bines rouges sur le treillis. À chaque année on prend une chance, mais quand ça marche c'est l'abondance. Attends-toi pas que ça va tout pogner, mais ça coûte rien de rêver. Une graine semée, ça veut pousser. Y en a qui grimpent vers le haut, d'autres qui tournent autour du pot. La patience est une semence. Je suis pas bonne en science, ni bonne en maths, mais je sais qu'il y a rien qui peut battre un sandwich aux tomates. Ça va faire des soupes, ça va faire des potages, des gelées, des confitures, on va stocker ça à la cave. Les plantes plaidines sont encore bien droites, même si on n'a plus rien à me donner. Les courges prennent toute la place, mais j'en aurai pour toute l'année. J'ai pousse une grosse bosse, je me pencherai toujours pour une petite cosse. J'ai arraché ma bourrache, mes pieds m'engotés par l'orage, éclairé mon tirocaille, étendu le paille-paille. Des fois, je me couche sous le feuillage, puis je garde les tomates dans leur petite cage. Y en a qui semblent vertes d'envie, d'autres qui me voient puis qui rougissent. Le soleil se cache l'autre bord, j'ai beau y mettre tous mes efforts. Quand le ciel appuie la larme à l'œil, il dépose puis sa peine sur le dos des feuilles. J'ai beau passer l'arrosoir, faire un petit tour à chaque soir, essayer de toute manière de coquiquer la chaudière. Une graine semée, ça veut pousser. Il y en a qui grimpent vers le haut, d'autres qui tournent autour du pot. La je suis pas bonne en science ni bonne en maths, mais je sais qu'il y a rien qui peut battre un sandwich aux tomates. Le climat est pas toujours stédile, j'ai jamais trop compté sur lui, mais drette quand ce que je me serre les dents, il nous serre la pluie suivie du beau temps. Quand j'échangerai mes gants pour des mitaines, puis mon râteau pour une pelle, je serai fière d'avoir sauvé mes graines pour faire de même prochaine. J'ai serré mes piquets, j'ai émondé la haie, j'ai enroulé le tuyau, empilé tout le typeau, j'ai taillé les rameaux, j'ai vidé le barido, j'ai fendu mon boilage, j'ai tout caché sous la bâche. Ah, une graine semée, ça veut pousser. Il y en a qui grimpent vers le haut, d'autres qui tournent autour du pot. La patience est une semence.
Sandwich aux tomates, Catherine Noël.
Oui, membre des Hey Babies. Tout ce que vous souhaitez et devez savoir au sujet de prêt numérique, on en parle avec Christiane Campagna, un nom qui vous dit certainement quelque chose, qui a été collègue de travail pendant des années à Canal M. Bonjour, Christiane.
Bonjour, Hélène.
Christiane, qui est maintenant chargée de communication chez Bibliopresto. Bibliopresto, qui est un organisme qui appuie les bibliothèques en leur offrant des services numériques.
Voilà.
Alors, Christiane, quatre chroniques pour notre plus grand plaisir avec vous pendant le mois d'octobre. On commence par la base. Hein. C'est quoi un prêt numérique ou c'est quoi prêt numérique?
Voilà. Bien, c'est une distinction intéressante oui. à faire déjà en partant parce que c'est pour ça qu'on, quand on parle de prêt numérique, ou prêtnumérique.ca, on l'écrit en un seul mot, pas d'accent. Ça nous permet de distinguer du prêtnumérique en général. Prêtnumérique, c'est une plateforme unique au Québec qui permet aux bibliothèques de gérer leur collection de livres numériques et audio numériques et qui leur permet aussi de prêter leur collection à leurs usagers. Donc, c'est vraiment, c'est la plateforme là, qui est fournie aux bibliothèques.
Alors, on garde ça en tête, là, une plateforme. Est-ce que prêt numérique, c'est un service de BANQ, c'est-à-dire de Bibliothèque et Archives nationales du Québec?
Pas vraiment. En fait, non, même si eux l'utilisent. Mais c'est vraiment quelque chose, une idée répandue. Je l'ai même vu souvent dans des articles de presse parce qu'on pense que c'est eux qui ont la plus grosse collection, on va se le dire. Ouais. Donc, ça peut créer cette confusion-là. En fait, prêt numérique, ça a été créé en 2012 à l'initiative de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, des réseaux biblio et de Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Mais pour créer prêt numérique, il y a un OBNL qui a été créé, l'organisme pour lequel je travaille, Bibliopresto. Donc, c'est Bibliopresto qui a créé le modèle de licence, tout ça, et qui fournit le service aux bibliothèques.
Est-ce que c'est seulement au Québec, prêt numérique?
En gros, oui. Il y a une seule exception à ça, et ce sont les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.
Ah!
Qui a approché plusieurs années prêt numérique parce qu'ils avaient besoin d'une plateforme qui allait offrir un meilleur choix de livres francophones. Parce qu'il existe d'autres plateformes semblables à prêt numérique ailleurs. On va le voir plus loin, il y a des bibliothèques qui utilisent une autre plateforme pour les livres anglophones. La technologie aussi derrière prêt numérique qui a été développée avec notre partenaire technique, la compagnie de marque, est distribuée ailleurs, mais sous un autre nom. Et dans ces cas-là, le choix de livres francophones est moins bon. Donc, les bibliothèques du Nouveau-Brunswick nous ont approchés il y a quelques années. Alors, c'est l'exception, là. Mais sinon, c'est au Québec qu'on trouve prêt numérique.
Parce qu'au Canada, il y a des services semblables. Là,
oui, des services. Il y a Bibliothéca, il y a Libby, qui sont les équivalents, parfois commerciaux. Nous, on a aussi la particularité d'être un organisme à but non lucratif, oui. De prêt de livres numériques. D'où la distinction du début entre prêt numérique et prêt numérique.
Oui. Sans accent.
C'est ça.
Est-ce que tout le monde a accès à la même collection de livres?
Non, justement. Parce que nous, ce qu'on fournit, c'est une plateforme. Mais je reçois souvent des courriels ou des messages Facebook qui demandent « J'ai commencé telle série de livres, pourquoi il n'y a pas le tome 4? » Mais ça, c'est vraiment propre à chaque bibliothèque. Donc, chaque institution, que ce soit BNQ, que ce soit les bibliothèques municipales ou que ce soit les réseaux biblio. Je vais faire une petite parenthèse sur le réseau biblio pour expliquer ce que c'est. C'est des regroupements régionaux de bibliothèques de municipalités de 5000 habitants au moins. Des bibliothèques qui n'auraient pas les moyens d'offrir à elles seules prêts numériques ou d'autres services numériques à leurs abonnés. Alors, en se mettant ensemble, ça leur permet d'offrir prêts numériques. Donc, dans le cas des très petites villes, c'est souvent via le réseau biblio que vous avez accès à prêts numériques. Mais dans chaque cas, il s'agit d'une collection unique. Là. Chaque bibliothèque, chaque institution achète ses propres livres numériques et prête gère sa propre collection.
Alors, si on a une demande spéciale à faire?
C'est vraiment à notre bibliothèque qu'il faut s'adresser. Ensuite, ça va dépendre de différents facteurs. Un, la politique d'acquisition de cette bibliothèque-là. Un, c'est quoi son budget? Est-ce qu'ils ont un gros budget ou pas pour acheter des livres numériques et audio numériques? Mais aussi, la disponibilité dans le format. Parce qu'il y a déjà des auteurs aussi qui nous ont écrit pour nous demander si on pouvait transformer leurs livres en livres numériques. Nous, prêts numériques, on ne fait pas ça. Ce sont les éditeurs qui créent les formats numériques. Ouais. Donc, si un livre n'est disponible qu'en format papier, ben ni votre bibliothèque, ni prêt numérique n'y peuvent rien. Je pense, par exemple, dans les livres très populaires présentement, les livres de l'autrice Gabrielle Bouchard. Elle publie chez Marchand de Feuilles, une maison d'édition qui porte très bien son nom. Ils ne font que du papier. Oui. Alors, on ne peut rien y faire, on ne peut pas le rendre disponible en numérique.
Mais j'imagine que l'éditeur reçoit des messages à cet effet-là, puis peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des changements.
On ne sait jamais. Ouais. Avec la popularité du format, ça pourrait arriver. Mm-hmm.
Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à plus d'un catalogue?
Ah oui, ça c'est le secret que tout le monde ne connaît pas nécessairement. C'est que en gros, au Québec, la plupart des gens peuvent avoir accès facilement à deux catalogues, c'est-à-dire votre bibliothèque municipale ou le réseau biblio auquel elle est affiliée. Il y a quelques petites municipalités au Québec qui n'ont pas du tout prêt numérique, mais sont vraiment pas nombreuses. Donc, vous vous abonnez à votre bibliothèque municipale, vous avez accès à ce catalogue-là. Et tout le monde au Québec peut s'abonner à BANQ, version numérique.
Tout le monde.
Il suffit d'habiter sur le territoire du Québec. Votre distance à pied de la grande bibliothèque n'a aucune importance. Vous pouvez habiter à Gaspé et être abonné à BNQ. Et ça vous donne accès à un autre très gros catalogue.
C'est sûr.
Parce qu'il faut savoir que aussi, la collection n'est pas la même partout et le modèle de licence fait en sorte que ce n'est pas du prêt illimité. Il y a des files d'attente quand même, comme pour les livres réguliers. Mm-hmm. Chaque exemplaire peut être prêté à une seule personne à la fois, tout ça. Fait que des fois, ça aide s'il y a un livre très populaire. Mettez-vous sur la liste d'attente de plus d'une bibliothèque. Parfois aussi, les petites municipalités ont des ententes avec des villes plus grandes à côté. Moyennant un petit frais, on peut s'abonner à une bibliothèque plus grande. Et il y a aussi le cas des étudiants au post-secondaire. Pas partout, mais il y a certains cégeps et certaines universités qui utilisent prêt numérique pour acheter, gérer, prêter leurs livres numériques. Je pense par exemple au cas du cégep du Vieux-Montréal. Un étudiant ou une étudiante de ce cégep-là pourrait avoir accès à trois catalogues s'ils prennent la peine de s'abonner à leur bibliothèque municipale, à BNQ et à celle de leur cégep.
En fait, abonnez-vous!
En fin de session, là, au milieu de la nuit, les cheveux gras, là, avoir accès à un livre sans sortir de chez soi, j'aurais aimé ça avoir ça dans mon temps.
Je vous comprends. Moi aussi, d'ailleurs. Et en terminant, Christiane, de quel appareil on a besoin? Est-ce qu'il faut absolument une liseuse?
Pas du tout. En fait, on peut emprunter et lire des livres de prêt numérique avec un ordinateur ou avec un appareil mobile, une tablette iOS ou Android, votre tablette Samsung, votre tablette Pixel. facilement avec l'application mobile de prêt numérique. Le téléphone, c'est petit un peu pour lire, mais ça dépend dans une file d'attente. Je l'ai déjà fait et c'est surtout très pratique pour les livres audio. Les liseuses, c'est un cas particulier. On ne peut pas emprunter à partir de la liseuse. Il faut donc emprunter avec son ordinateur, puis il y a une petite manœuvre, là, une petite passe-passe que les gens n'aiment pas, je sais, pour transférer les livres sur la liseuse. Par contre, je sais que les adeptes de la liseuse vous diront que c'est la façon la plus confortable de lire au bout du compte.
Bon, alors...
Mais c'est ça. Mais je voudrais juste, si on a deux secondes, expliquer pourquoi. Parce qu'on se le fait beaucoup demander. Pourquoi on ne peut pas emprunter sur prêt numérique directement à partir de la liseuse? Ce n'est pas notre choix. C'est le choix des compagnies de liseuse. Je prends l'exemple la plus populaire, le Kobo. Contrairement à iOS et Android, c'est des systèmes fermés. Les applis mobiles chez Apple, chez Google, on la développe et ensuite on leur propose et s'ils l'acceptent, on remplit certains critères. Elle est disponible sur le Apple Store, sur le Google Play Store. Mais pour les liseuses, ce n'est pas possible. C'est des systèmes fermés. Ils vendent la tablette avec des applications déjà dedans et il n'est pas possible d'en développer d'autres.
Oh non.
Et un petit marché comme prêt numérique, malheureusement, ça ne les intéresse pas.
Ouais.
Et ce n'est pas... Prêt numérique qui ne veut pas avoir une application pour les liseuses, c'est la compagnie de liseuses qui n'est pas intéressée. Okay. En fait, qui nous ont même jamais répondu. Là.
Si on a des bêtises
à dire, c'est à Kobo.
Oui, parfait. Alors, Christiane, merci beaucoup. On en a appris beaucoup sur prêt numérique, pas d'accent, en un seul mot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Je rappelle que vous êtes chargée de communication chez Bibliopresto. Moment de parler avec Julien Caillouette pour sa chronique qui nous donne des nouvelles fraîches du Canada francophone. Julien qui est rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour.
Bonjour.
Julien, vous commencez par une nouvelle justement tirée de Francopresse. Mm-hmm. Les travailleurs étrangers temporaires, entre guillemets, ne volent pas les jobs.
Oui, parce qu'on revient sur une annonce faite il y a quelques semaines par le Parti conservateur qui a mis dans sa ligne de mire le programme de travailleurs étrangers du gouvernement fédéral. Pierre Poilievre, le chef conservateur, dit qu'il veut l'éliminer ou du moins le réduire pour que les Canadiens puissent trouver des emplois plus facilement. C'est vrai qu'il y a eu une hausse constante du taux de chômage depuis la fin des mesures sanitaires, puis ça inquiète plusieurs personnes et les travailleurs étrangers sont une réponse facile au fait que ce taux de chômage-là augmente. Il y a eu une conférence de presse il y a quelques jours de la Confédération des syndicats nationaux qui rappelle que les travailleurs temporaires qui viennent combler des emplois qui ne sont pas remplis par des Canadiens. L'employeur doit prouver qu'il n'y a pas personne au pays qui veut l'emploi qu'il veut remplir avant de pouvoir aller chercher quelqu'un à l'extérieur. On a un exemple de la diminution du plafond. L'année dernière, déjà, on a réduit le nombre de travailleurs étrangers qui pouvaient venir au Canada. Et ça l'a entraîné, nous dit la CSN, la fermeture d'étages dans des résidences pour personnes âgées parce qu'il n'y avait pas assez de travailleurs. On a aussi parlé avec le directeur général de l'Association des transformateurs de homards des maritimes, qui lui rappelle que les Canadiens fuient un peu les emplois que son industrie offre. Ils ont vraiment de la difficulté à pourvoir les postes. Donc, les travailleurs étrangers deviennent essentiels pour assurer leur fonctionnement. Il nous raconte aussi que pendant la pandémie, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a réduit ce plafond-là en espérant que le plafond de travailleurs étrangers en espérant que les Néo-Brunswickois prennent les emplois. Et c'est pas arrivé. Les usines de transformation de homards fonctionnaient ont perdu 30 à 50 de leur efficacité. La CSN demande par contre des modifications au programme parce que il préférait, entre autres, qu'on n'attache pas un travailleur étranger à un employeur. C'est-à-dire quand un employeur va chercher un travailleur étranger, le travailleur est attaché à cet emploi-là, il ne peut pas changer. M. Richard dit, lui, qu'il faut faire attention parce que si on veut faire ce changement-là, parce que le processus est quand même long pour aller les chercher. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Puis si on donne la possibilité aux travailleurs de changer d'emploi en arrivant au Canada, ça peut créer une autre sorte d'abus. Il peut y avoir des travailleurs qui arrivent, qui passent à travers le processus pour venir ici. En arrivant, change d'emploi et là, l'employeur se retrouve à la case départ, il doit tout recommencer.
Alors, c'est dans Franco-Presse qu'on peut lire la suite. Des municipalités acadiennes inquiètent à l'idée de devoir offrir des services en anglais.
Il y a un membre de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick qui souhaite présenter une résolution pour que les communautés francophones acadiennes échappent à l'obligation de servir les anglophones dans leur langue. C'est que la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick oblige les municipalités à desservir les gens dans la langue minoritaire qu'ils représentent. Et la langue minoritaire, on parle de l'anglais dans les communautés très, très francophones. Cette population-là dépasse 20% du nombre total de résidents de la municipalité. Le maire de Nouvelle-Arcadie veut augmenter ce seuil-là à 25 ou 30. Il pense que ça évitera entre autres à sa municipalité et à d'autres de devoir tout traduire ce qu'ils font au niveau municipal. Il y a des villes historiquement francophones, nous dit-on, qui depuis 2021, depuis des déplacements de population de la pandémie, a vu sa population augmenter et parfois dépasser le seuil du 20%. Il y en a qui disent que c'est beaucoup des Ontariens qui sont déménagés dans la région. Ils arrivent dans des villes historiquement un peu francophones, puis ils s'attendent quand même à avoir des services en anglais, alors qu'il n'y en avait pas d'offres jusqu'à maintenant. Selon M. Bourque, sa demande respecte l'esprit de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick qui a été faite pour protéger les francophones en situation minoritaire et non les anglophones de la province. Et c'est le français qui est justement surtout menacé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Sa résolution va être présentée lors de du congrès annuel de l'Association francophone des municipalités du 17 au 19 octobre.
C'est bien Nouvelle-Arcadie, hein, qui est un village du Nouveau-Brunswick.
Oui. C'est une nouvelle municipalité amalgamée il y a quelques années.
Et dans le droit, on parle de modèles pour la jeune génération de personnes amputées.
Il y a eu un séminaire du programme des amputés de guerre à Ottawa la fin de semaine dernière. C'est un événement bilingue et ça lance en quelque sorte, nous dit-on, le 50e anniversaire de l'organisme qui a été fondé en 1975. Ce genre de séminaire-là était plus courant avant la COVID, mais bon, évidemment, on a arrêté pendant cette période-là et ça n'a pas repris tout à fait au même rythme encore, on nous dit. Ce qu'on raconte dans l'article, c'est qu'il y a des gens de tous âges qui étaient là pour servir d'exemple aux jeunes amputés. Et on parle entre autres à Alex Boivin, amputé des deux bras et qui vit seul dans la région de Montréal. Il dit qu'il a parlé à beaucoup de parents qui ont eu des inquiétudes par rapport à leurs enfants qui sont amputés. Quand les parents n'ont pas vécu ça, qui ont tous leurs membres, on a un peu plus de difficultés, on est un peu plus inquiet par rapport à l'avenir de notre enfant, puis on connaît pas les trucs, on sait pas trop quoi donner comme conseil. Donc, de rencontrer des gens qui sont passés par là, ben, ça rassure tout le monde, parents et jeunes amputés aussi. Alex Boivin raconte qu'il participe à ces séminaires-là depuis 28 ans, puis que ça a fait toute la différence dans sa vie. La première fois qu'il est allé, par exemple, il quittait un milieu où il était la seule personne différente. Il arrivait dans un environnement où il pouvait simplement être un enfant et pas une personne amputée.
Dans la liberté maintenant, 1,6 million de dollars pour renforcer le bilinguisme au Manitoba.
Ouais, les Franco-Ontariens n'ont pas été les seuls à avoir des cadeaux le 25 septembre. Le gouvernement du Manitoba et du Canada ont annoncé un investissement commun de 1,6 million de dollars pour renforcer les capacités bilingues de la province. L'argent va servir à plusieurs choses. Premièrement, améliorer l'affichage en français sur les routes et les bâtiments municipaux, offrir plus de services en français, renforcer le tourisme francophone au Manitoba, si vous voulez aller faire un tour dans les prochaines années, et finalement embaucher plus de travailleurs sociaux et d'agents d'accueil bilingues pour le ministère de la Justice. Ces embauches-là sont surtout un nouveau programme d'appui à la violence conjugale qui est en cours d'élaboration.
On poursuit, Julien, avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui cherche un nouveau dialogue Québec-Alberta.
Oui, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, était en visite en Alberta à la mi-septembre, il y a quelques semaines, puis il a accordé une entrevue au journal Le Franco, là-bas, avec le mouvement indépendantiste qui monte en Alberta. Le chef péquiste était curieux d'aller voir ce qu'il dit sur le terrain. Il n'a pas pu rencontrer la première ministre, Danielle Smith, là, comme il dit, c'est le chef de la troisième opposition au Québec, il n'a pas la prestance pour parler à une première ministre des provinces, mais il veut quand même être capable de créer des liens avec la province et les gens qui y sont pour éventuellement créer des liens plus étroits quand il sera peut-être au gouvernement. Puis il parle aussi des frustrations des communes de l'Alberta et du Québec par rapport à Ottawa et à l'ingérence dans les compétences des provinces. Puis à la fin, la journaliste lui demande comment un Québec indépendant pourrait soutenir les communautés francophones du Canada. M. Paul Saint-Pierre Plamondon répond qu'il le ferait avec plaisir et solidarité. Il dit que les francophones du Canada, si les francophones du Canada demandent de l'aide du Québec, d'un Québec indépendant, il va saisir l'occasion et ne pas laisser tomber les francophones du continent.
Et en terminant, la réconciliation dans le nord du Canada avance.
C'était la journée Vérité et réconciliation hier, le 30 septembre. Il y a beaucoup de médias qui ont écrit sur le sujet. Nous, à Franco-Presse, on a mis un texte en ligne. Mais je vous parle ici du texte des journaux, journalistes des journaux du territoire qui ont un programme commun d'articles de l'article et qui a été publié dans l'Aquilon. On dit qu'entre autres, au Yukon, le mouvement de réconciliation est sur une bonne voie. Et c'est les Autochtones qui le disent, là, surtout si on compare la situation actuelle à ce qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais encore beaucoup de choses à accomplir dans les 94 appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. L'Assemblée des Premières Nations dit qu'il y a des progrès significatifs qui ont été faits dans le domaine du sport et des médias, mais qu'il n'y a à peu près rien qui a été fait en justice, en éducation et pour la jeunesse. On s'inquiète aussi des réductions budgétaires du fédéral. Les programmes autochtones sont déjà sous-financés. S'il fallait couper 15% de leur financement, bien, ça mettrait en jeu la mise en œuvre de plusieurs appels à l'action.
Là-dessus, on se dit merci. À la semaine prochaine, Julien.
À la semaine prochaine.
Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau-frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici, y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Tu me connais, j'suis pas motivé plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body.
Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur ou ben si t'as pris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, j'suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
La toune d'automne, les Cowboys fringants.
Qui nous rappelle que c'est l'automne, même si de ces temps-ci, il fait pas mal beau et pas mal chaud. Pas aujourd'hui, par exemple. C'est une belle journée d'automne. Profitez-en bien. On entendait cette belle voix réconfortante du regretté Carl Tremblay. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent à l'écoute. Ici Hélène Denis. Merci Mathieu Tessier.
Merci à vous.
Vous êtes aimé de parler, vous. On se retrouve demain à compter de 9h30.